Il était une fois, une émission de Kato Bell, Manu Van Leer et Angélique Tazio.
Bonsoir, très joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. Pour évoquer cette fête, la plus importante de l'année pour les chrétiens, on se retrouve aujourd'hui avec Angélique Tazio, journaliste de Kato Bell, et notre invité, le père Jacques Pinault, moine de l'abbaye de Scourmont à Chimay. Bonsoir Angélique et bonsoir père Pinault.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Père Pinault, avant de nous plonger au cœur de cette fête de Pâques, je vous propose de faire un peu plus connaissance. Depuis combien de temps êtes-vous moine à l'abbaye de Scourmont et quel a été votre parcours avant de rejoindre cette communauté ?
Eh bien, disons qu'au point de départ, j'étais prêtre diocésain dans un diocèse québécois. Je l'ai été près de 8 ans. Je suis entré dans un monastère québécois, Mistassini, et j'ai exercé plusieurs fonctions, dont celle du père abbé. Et à la fin de mon mandat comme père abbé, le père abbé de Scourmont était aussi un moine de Mistassini. Alors il m'a invité à venir le rejoindre ici, à Scourmont. Et ça fait depuis 13 ans que j'y suis.
Donc c'était Don Armand Veilleux?
Don Armand Veilleux, oui. Alors entre-temps, évidemment, je me suis enraciné, parce que quand on passe d'un monastère à l'autre, on peut toujours retourner dans le sien, mais si on choisit de rester là où on nous a envoyé, il faut faire une nouvelle stabilité. Alors j'ai fait une stabilité pour Scourmont, et j'ai aussi fait une stabilité pour la Belgique. Je suis devenu belge aussi, en cours de route.
Bienvenue alors.
Ah, merci bien.
Et vous vous sentez bien en Belgique?
Parfait, parfaitement. Je ne retournerai pas au Québec. J'y retourne à l'occasion, mais pas pour y rester. D'ailleurs, on m'arracherait le cœur si je devais partir, mais enfin. C'est assez curieux de découvrir qu'on peut partir d'un endroit et se retrouver ailleurs, comme si c'était prévu de tous les temps que c'est de là qu'on devait aboutir. Hein. Et c'est, quand j'ai fait ma nouvelle stabilité pour Scourmont, c'était un 11 juillet de je ne sais plus quelle année, j'ai eu nettement l'intuition et l'impression que c'était ici que je devais être.
Scourmont, plus connu sous le terme abbaye de Chimay, combien de moines aujourd'hui?
On est une quinzaine à peu près. Je crois que c'est 14 moines et 3 postulants, quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas mêler. L'abbaye de Scourmont, c'est l'abbaye de Scourmont. L'abbaye de Chimay, ce sont les sœurs.
Ah, voilà.
Elles sont en ville, dans la ville de Chimay. Notre-Dame de la Paix. Tandis que nous, Notre-Dame de Scourmont, on est un peu dans un hameau. Autrefois, c'était Forges qui était la commune.
Et les productions monastiques?
Les productions monastiques, il y en a de toutes sortes. Évidemment, les plus connues sont la bière et le fromage. Mais disons, on peut se limiter à ça au niveau commercial. Mais on a d'autres engagements qui ne sont pas nécessairement de type commerciaux. Par exemple, on subventionne des crèches, etc. Un certain engagement social pour soutenir la population, la création d'emplois, l'accueil des réfugiés, enfin. Alors, on ne peut pas dire que c'est commercial, mais c'est engageant.
L'évangile du jour, selon saint Jean, nous emmène sur les pas de Marie-Madeleine qui découvre un tombeau vide. Elle alerte deux disciples, dont Pierre, qui se rendent au tombeau. Que nous disent les réactions de Pierre et de l'autre disciple?
Pierre est un homme qui réagit habituellement de façon entière. Hein? Pierre, c'est oui ou c'est non. Hein? Mais devant le tombeau vide, tout d'un coup, il devient un homme perplexe qui ne sait pas quoi penser. Il regarde les choses, les linges qui sont restés par terre, un autre qui est roulé dans un endroit. Et évidemment, Marie-Madeleine les avait un peu interpellés en croyant que le corps avait été enlevé. Le corps est évidemment absent. On se demande comment on a pu retirer le corps alors que les soldats romains étaient là pour veiller. Alors, ça fait un peu rocambolesque, hein, parce qu'ils auraient dormi, ils n'auraient pas entendu la pierre qui a été roulée, ils n'auraient pas entendu un groupe arriver avec des flambeaux, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de torche électrique ni de corbillard. Il fallait bien qu'ils transportent le corps de quelque façon, hein, ou à ce que c'était sous le bras, on n'en sait rien. Mais ça fait un peu Arsène Lupin avant l'heure comme enlèvement. Et ensuite, on leur dit de mentir, hein, parce qu'ils devaient être occupés à veiller et ils sont obligés de dire qu'ils dormaient. Mais là, ils sont passibles de la peine capitale. Alors, c'est un langage politiquement correct. Hein. Je veux dire, Pierre est perplexe, mais les autorités veulent éviter que finalement, cette fois, la résurrection puisse se répandre. Alors, ils font tout pour l'empêcher, autant les Romains que les grands prêtres juifs. Alors, c'est la réaction de Pierre. Les autorités en avaient une peut-être plus pour éviter tout inconvénient. Tandis que Saint Jean, enfin l'autre disciple, a sans doute la réaction la plus intéressante, on pourrait dire, parce que on dit il vit et il crut. En fait, il ne voyait rien, hein, parce que le tombeau était vide, on ne savait pas où était le corps de Jésus, mais dans le il vit, je ne crois pas qu'il faut regarder ça comme s'il voyait les choses avec ses yeux du corps matériel. Je pense qu'il fallait regarder ça avec les yeux de l'âme ou des yeux intérieurs, parce que tout de suite après, on dit qu'il s'est souvenu des paroles de Jésus. Or, s'il se souvient des paroles de Jésus, c'est qu'il retourne à l'Écriture. Évidemment, le Nouveau Testament n'est pas encore publié, n'est pas encore imprimé à ce moment-là, mais c'est vraiment cette démarche de la rencontre du Christ dans sa parole pour le reconnaître et puis l'identifier dans la vie courante. Alors, au point de départ, Saint Jean est beaucoup plus rapide que Pierre en ce sens-là, parce que dans l'Évangile, on dit qu'ils ont couru tous les deux ensemble, mais que Jean est arrivé le premier. Alors, il est arrivé le premier physiquement, mais il est arrivé le premier aussi spirituellement.
Jésus avait promis de ressusciter, ça veut dire que la vie ne se termine pas avec la mort?
D'une part, mais je ne sais pas quelles étaient les réflexions de ces gens-là en cours de route. Est-ce qu'ils se disaient... Est-ce que finalement il est ressuscité? Hein? Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qui va nous indiquer que ça s'est produit? Parce qu'ils arrivent devant un espace vide, il n'y a pas d'annonce triomphaliste, rien. D'ailleurs, c'est un des rares évangiles au cours de l'année où Jésus est absent. Il ne fait rien, il ne dit rien, et non seulement il n'est pas là, mais on le cherche. Alors, aujourd'hui, on parle de foi en la résurrection, mais vous savez, même si on est baptisé, au point de départ, on nous transmet la foi en la résurrection, nous-mêmes, nous l'avons reçue de la part des communautés qui y ont cru avant nous, et parce que les apôtres l'ont répété. Mais la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes baptisés, peu importe à l'âge où nous le sommes, eh bien, on est obligé de se poser des questions, on est obligé de se demander, oui, mais le Christ, finalement, qui suis-je pour lui et qui est-il pour moi? Et ensuite aussi, toutes ses paroles, tout son enseignement, il faut l'assimiler quelque part, hein?
Père Pinault, dans votre livre « Dans les pas du Christ », vous témoignez de cette expérience vécue personnellement de comprendre la dimension du Christ ressuscité devant une peinture que vous présentez à un groupe de jeunes visitant le séminaire. Vous écrivez « Auparavant, j'étais aveugle ». Que voulez-vous dire par là?
Eh bien, ça, c'est un événement un peu particulier qui m'a fait vivre, un événement extérieur qui m'a fait vivre quelque chose d'intérieur. Il y avait dans le séminaire, à un palier, une peinture assez grande, qui ressemblait, il y avait toutes sortes de couleurs là-dedans. Alors, et je ne sais pas si c'est le supérieur ou d'autres séminaristes qui m'avaient dit que c'est une peinture du Christ. Alors, quand je regardais ça chaque matin, puis que je descendais l'escalier, je voyais une tartine de couleurs. J'avais beau la regarder. Hein. Et à un moment donné, j'ai fait visiter le séminaire à un groupe de candidats que pour l'année prochaine, l'année suivante. Là. Et un peu de façon comique, ou je ne sais pas trop, cynique, je leur dis, ça, c'est la peinture du Christ ressuscité. Et je l'ai vu. Je veux dire, j'ai vraiment reconnu dans la peinture un Christ ressuscité, et même, on pourrait ajouter un Christ outragé au-dessus d'une ville. Autrement dit, la peinture s'est révélée à moi alors que je ne la regardais depuis des années. J'ai ensuite raconté ce phénomène-là à mon directeur spirituel pour lui dire que ça m'a vraiment surpris, ça m'a brassé un peu. Et il m'a dit là-dessus, il dit, c'est très beau l'expérience que tu viens de vivre parce que on reconnaît le Christ en le montrant. Ça veut donc dire que dans notre, le Christ nous envoie en mission. Il dit, allez partout sur la terre, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évidemment, on ne fait pas tout ça à la façon d'un prêtre ou d'un apôtre, on fait ça à la façon d'une personne ordinaire, par notre attitude, par nos paroles, par nos gestes. Mais le geste de l'amour, le geste de la charité, le geste de l'écoute ou enfin de l'explication est en lui-même une démarche qui nous fait reconnaître le Christ chez les autres, et j'imagine réciproquement.
Père Pinault, ça veut dire qu'il s'agit de voir avec non plus les yeux, mais le cœur?
Ben, je pense que toute vie spirituelle, on peut manifester physiquement qu'on est une personne très profonde à l'intérieur, mais on ne s'approfondit pas du jour au lendemain. Il faut, sans nécessairement réfléchir de jour et nuit, là, je pense qu'il faut tirer des leçons de nos expériences. Il faut être capable aussi d'écouter ce que les autres ont à nous dire ou nous transmettre, parce que il y a des adages qui disent qu'on ne rencontre jamais quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose à nous dire ou à nous montrer. Et ça, je crois qu'il faut être attentif et non pas être tout à fait égoïste ou comme si on était une île et qu'on n'avait pas besoin des autres. Et le témoignage des autres, la parole des autres dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas simplement le domaine de la parole ou de l'enseignement, il y a celui de l'art, la rencontre, l'amitié, nous disent quelque chose de Dieu. Parce que Dieu parle par tout le monde. Hein. C'est l'univers entier qui est reflet de la gloire de Dieu. C'est pas juste les chrétiens du dimanche, hein, très catholiques. C'est l'univers tout entier. Alors, ça veut dire que les bouddhistes, les musulmans, les hindous peuvent nous dire quelque chose et du Christ et de Dieu.
Croire en la résurrection du Christ, c'est une question de confiance?
Oui, une fois que vous y avez adhéré. Mais je pense qu'il ne s'agit pas simplement de dire oui ou non à la résurrection. Je pense qu'à un moment donné, au cours de votre vie, peut-être au plus creux de vos épreuves ou de vos succès, il y a une conviction qui s'intègre ou quelque chose que vous saisissez et que vous comprenez et qui devient un peu dans votre vie, un peu comme un phare. Et un phare sur lequel vous pouvez construire pour tout le reste de votre vie parce que désormais, vous êtes sûr de quelque chose. Vous êtes sûr de l'amour de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup de rejet, hein, qui est condamné pour toutes sortes de raisons, peut se retrouver complètement isolé à un moment donné et rentrant dans lui-même, il peut découvrir comme ça tout bonnement à la lecture de la parole de Dieu ou d'un autre texte que même si tout le monde le rejette, au minimum, il est aimé de Dieu. Et si quelqu'un reçoit ça comme un peu comme une flèche, comme une parole de feu, ben, le reste de sa vie va en être transformé.
Quels sont les récits bibliques qui nous parlent le mieux de cette confiance, de cette foi sans condition?
Bien, il y en a évidemment qui sont solennels. Prenez par exemple la Vierge Marie, qui est une jeune juive, hein, on dit 15-16 ans. Est-ce qu'elle avait songé à devenir la mère de Dieu? J'en doute. Est-ce qu'elle avait cherché à être quelque chose du genre? Je ne pense pas. Et tout d'un coup, lui arrive un événement, un ange qui lui annonce qu'elle sera la mère de Dieu, ça veut bien accepter. Et évidemment, comme projet, c'est un peu dérangeant parce qu'elle est fiancée avec quelqu'un, ils vont probablement s'établir dans Nazareth et tout d'un coup, ça devient mère de Dieu. À quoi ça l'engage, hein? Alors, c'est toute sa vie qui doit changer. Et puis, elle dit, elle a quand même un peu de discussion. Elle dit, je connais pas d'homme, elle dit là. il y a tout de même des choses que vous devez m'apprendre. Et finalement, elle dit en toute confiance qu'il me soit fait selon votre parole. Mais ce n'est pas uniquement à ce moment-là, c'est tout le reste de sa vie. Hein, parce qu'on lui dit, il sera grand, il sera le chef, il sera le fils de Dieu, il va rassembler les gens, etc. Et puis tout d'un coup, il est 30 ans chez eux à travailler le bois avec son père. Je ne sais pas s'il a travaillé pendant 30 ans avec son père. Mais à un moment donné, il part un peu comme un aventurier, puis aboutit sur une croix. Et là, j'imagine qu'une mère qui voit mourir son fils sur une croix comme un condamné entre deux voleurs à qui on a dit que c'est le fils de Dieu et qui va... ça lui prend plus que de la confiance. Hein, ça lui prend une foi profonde pour ne pas sombrer dans la tristesse et le désespoir. Alors, je pense que c'est le modèle de foi le plus fort que les Écritures nous transmettent. Mais on peut aussi parler de Moïse, de David et de bien d'autres personnages, les apôtres eux-mêmes.
Et peut-être le bon larron?
Ah, certainement le bon larron. Oui, parce que pour moi, le bon larron, c'est un sommet de l'histoire de l'humanité. Parce que le larron, c'est un pécheur, un voleur, un bandit, enfin quelqu'un qui n'a pas fait que de bonnes choses et qui est condamné. Hein, je veux dire, il est en train de périr à cause de ses... Il a été mal pris, hein, la police l'a réclamé, puis le juge et tout ça, et finalement, sa vie aboutit comme un crucifié. Et il est, je ne sais trop comment, une grâce particulière ou une rencontre, parce que je pense qu'on a une interaction, les personnes, les unes envers les autres. Alors, imaginez-vous, si vous rencontrez la femme de votre vie, vous ressentez quelque chose, hein, ou un ami, ou peu importe, mais là, tout d'un coup, vous rencontrez le Fils de Dieu. Alors, j'imagine que le bon larron, il a perçu quelque chose, et il reconnaît en un autre condamné qui meurt de la même mort que lui, à la même heure, sur une croix, alors qu'il ne passait pas pour un bandit, mais que politiquement, on a condamné. Alors, il est capable de reconnaître le Fils de Dieu. Alors, il lui offre son amitié. Hein, il dit, « Souviens-toi de moi dans ton royaume. » Et le Christ répond à cette amitié. Il répond, « L'amitié de Dieu est offerte à l'homme en lui disant, « Aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. » Dans les textes, on dit, « Tu seras avec moi. » Mais moi, je suis convaincu qu'il a dit, « Tu es avec moi aujourd'hui. » Et que cette amitié-là, c'est l'amitié de Dieu et de l'homme. Et c'est une amitié qui ne peut pas mourir. Hein, qui ne peut que durer éternellement. Alors pour moi, la résurrection du Christ est importante comme événement pour notre foi, mais l'amitié de Dieu, du Christ et du larron qui s'offre au moment de mourir, c'est un sommet de l'humanité.
C'est une amitié inconditionnelle.
Certainement, parce qu'il n'y a pas moyen de se détacher de la croix puis de se promettre quoi que ce soit.
Oui, mais qui ne suppose pas que le bon larron ait un profil particulièrement respectable, etc. Il est pris tel qu'il est.
Comme tout le monde, parce que le Christ est venu sauver tous les hommes, particulièrement ceux et celles qui se sentent perdus. Hein? Alors là, il y avait le modèle idéal. Mais je crois que c'est un évangile, un texte ou un événement des plus importants de l'histoire de l'humanité. Hein. C'est vraiment concrètement Dieu qui accueille quelqu'un qui a commis le pire. Hein. Est-ce qu'il a commis des meurtres? On ne dit pas exactement pourquoi il est condamné, mais on n'est pas condamné à la mort parce qu'on a volé un paquet de chewing-gum. Hein. Je veux dire, on a fait quelque chose de grave.
Hein. Et c'est là que la foi peut vraiment nous sauver?
Bien, c'est-à-dire que quand vous recevez un événement semblable, quand vous percevez l'importance et la profondeur, vous ne pouvez pas demeurer indifférent. Vous pouvez retarder toute adhésion au Christ, mais vous pouvez, si ça vous marque, vous ne pouvez pas l'oublier. Hein? Ça va vous travailler jusqu'à ce que vous changiez d'idée, que vous renonciez à vos convictions pour en acquérir d'autres.
Et justement, comment la foi peut-elle nous sauver? Ou de quoi peut-elle nous sauver?
C'est-à-dire que ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est le Christ. Je veux dire, on peut adhérer ou pas à lui, mais c'est vraiment lui qui nous sauve. Je veux dire, vous vous souvenez peut-être dans l'Ancien Testament, songez à Abraham qui, devant le danger que Sodome et Gomorre périsse avec 50 justes, demande à Dieu, s'il y a 50 justes dans la ville, vas-tu faire périr tout le monde? Et puis, à un moment donné, ben, il descend ses exigences à 40, puis à 30, puis à 10, puis il décide d'arrêter à 10. Alors là, comme il n'y en avait pas 10, eh bien, les deux villes ont péri, mais il aurait pu arriver à zéro. Parce que ce n'est pas le nombre de justes qui fait qu'on est sauvé, c'est Dieu qui nous sauve. Puis le salut est gratuit. On ne gagne pas son ciel, on ne gagne pas son salut. C'est tout à fait gratuit de la part de Dieu.
Quand vous dites que c'est le Christ qui sauve, c'est ce qu'on doit entendre par cette phrase « Je suis la lumière du monde ».
Ben, c'est-à-dire que c'est la lumière du monde, c'est un bon éclairage. Mais quand il dit « Je suis la lumière du monde », je crois que ce n'est pas simplement une parole pour s'opposer aux compagnies d'électricité ou aux vendeurs de lampes. Je pense vraiment que sa vie, ses paroles, ses gestes, ce qu'il a manifesté et que l'on retrouve dans les textes de la parole de Dieu, et puis dans l'histoire personnelle de bien des gens, parce qu'il y a plein de disciples qui ont voulu vivre comme le Christ et qui sont devenus en quelque sorte d'autres Christ ou des gens à son image. C'est cette lumière qui se répand. Lui, le Christ, dit « Je suis la porte, je suis l'agneau de Dieu, je suis la lumière du monde », mais si on veut bien accueillir la lumière, on va l'apercevoir dans une manifestation de Dieu ou du Christ qui dépasse ces simples mots.
Père Pinault, à l'inverse, que dire à quelqu'un qui vit un drame, qui vit un grand malheur et qui remet sa foi en question, qui ne parvient plus à voir la lumière?
Oui, c'est sûr que quand on a une difficulté, une maladie, une épreuve, un accident, une contrainte, enfin, une difficulté quelconque, la première réaction, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Là-dessus, je raconterai une histoire. Mais le point de départ, c'est plutôt « Qu'est-ce que je peux tirer de positif de l'événement qui m'arrive? » Parce que si vous faites un accident de voiture à la suite d'un excès de vitesse, vous ne pouvez pas demander à Dieu « Pourquoi j'ai fait un accident ?» Vous êtes responsable de vos actes. Bon, évidemment, on n'a pas toujours le même type de responsabilité, mais de toute épreuve, au lieu de s'accabler puis de s'écraser en se disant « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» je pense qu'il faut plutôt chercher qu'est-ce que cette épreuve-là vient faire dans ma vie. Est-ce que je dois apprendre la patience? Est-ce que je dois cesser de chercher à tout dominer, à tout contrôler, etc.? Si j'ai le temps de raconter une histoire, j'en raconterai une. C'est un chef de bureau qui ne croit ni en Dieu ni au diable, et pour lui, toute religion est une superstition. Bon. Alors, quand tout va bien, tout va bien, mais un bonjour, c'est la série noire, ça commence à tourner mal. Alors, il dit à ses secrétaires le lundi matin, parce que là, il y a bien plein de choses qui sont accumulées sur son bureau, il dit « Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça m'arrive en un seul jour. » Et il y a une secrétaire brillante qui lui dit « Mais tu nous apprends deux choses. » Elle dit d'abord « Dieu te connaît et tu crois en Dieu.
» Quand vous évoquez le fait que certains événements dramatiques remettent en question peut-être le mode de vie, ou il y a quand même des événements qui sont au-delà de l'admissible, la perte d'un enfant, que dire à ces gens qui sont confrontés à l'innommable?
C'est-à-dire que souvent, il n'y a rien à dire. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui est dans une souffrance profonde, il n'y a aucun discours qui va le faire sortir de sa souffrance. Il y a la sympathie, la présence. Je veux dire, c'est quelque part, c'est un coup de chance. Par exemple, si vous vivez un deuil, comme vous venez de parler là, eh bien, il y a bien des gens qui vont dire mes sympathies, courage, confiance, etc. Et ça déboule un peu comme la pluie, ça va. Puis tout d'un coup, quelqu'un qui est purement étranger va vous dire vous allez vous en sortir, je le sens, ou peu importe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus court-circuiter le deuil ou la souffrance. Ça doit durer un certain temps et il faut le vivre. Quand mon père a été mourant, il m'a dit, au téléphone, il y en a qui disent qu'il faut se réjouir de mourir. J'ai dit oui, mais après la dernière larme.
À Pâques, Père Pinault, on baptise les catéchumènes, donc les personnes qui se convertissent adultes. Pourquoi ce jour de Pâques en particulier?
Ah ben ça, c'est la tradition de l'Église. C'est-à-dire, c'est, on pourrait les baptiser à Noël, parce que c'est la fête des enfants, mais dans la tradition de l'Église, le carême a toujours été un temps de conversion et de préparation à une démarche importante, et cette démarche importante aboutissait au baptême des catéchumènes. Disons, ça s'est intégré presque spontanément dans l'histoire de l'Église. On ne songerait pas à changer ça parce que ça fait partie des très anciennes traditions. Mais quand même, aujourd'hui, comme la quantité de demandes de baptême de la part des adultes va toujours en augmentant, je pense d'une part qu'il faut s'en réjouir et d'autre part, c'est questionnant. Parce que beaucoup de ces gens-là n'ont pas été baptisés parce que leurs parents ont négligé de le faire, etc. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, ça arrive que ces adultes demandent le baptême alors qu'ils n'y ont pas été préparés étant jeunes? Alors, je pense que quelque part, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit. Parce que le Christ nous a dit qu'il allait nous envoyer un paraclet, enfin l'Esprit Saint, pour nous accompagner. Et je pense que l'Esprit Saint, il travaille. Et que l'augmentation de la demande du baptême par les adultes est un signe de la manifestation de l'Esprit. Parce qu'il faut savoir en voir des manifestations de l'Esprit, pas uniquement dans sa petite vie, mais dans l'ensemble de l'univers aussi. Et ça, c'est un événement qui vient de l'Esprit Saint.
Père Pinault, quel regard avez-vous sur la commercialisation qui est faite de cette fête de Pâques? C'est quelque chose qui vous attriste, vous chagrine?
Non, moi ça ne me dérange pas du tout. Parce que, vous savez, le Christ, lorsqu'il est arrivé au temple, il a dit « Vous avez fait de ma maison de prière une caverne de brigands ». Eh bien, je pense que nous sommes tous investis comme étant adoptés par Dieu, mais quelque part, nous sommes tous aussi des brigands. Et que, comme brigandage, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de l'essentiel. L'Église existe depuis 2000 ans, mais Dieu est là bien avant nous et il n'a pas perdu le contrôle de la création. Alors, je ne pense pas que ce soit la vente de petits chocolats de Pâques qui vont empêcher les croyants de rencontrer le Christ.
Quel sens la fête de Pâques occupe-t-elle encore dans la société aujourd'hui? Que peut-elle signifier?
La signification que la plupart des gens saisissent est peut-être très faible. Mais quand on pense Noël, quand on pense Pâques et quand on pense funérailles, on ne le pense pas toujours avec foi, mais avec un petit brin de nostalgie. Alors au minimum, je pense qu'il y a un peu, dans nos sociétés chrétiennes, il y a un petit brin de nostalgie. Ça n'empêche pas que le dimanche de Pâques, le jour de Pâques, on célèbre vraiment la résurrection du monde, c'est-à-dire du Christ, mais de la nôtre aussi, hein, parce que nous ressuscitons avec le Christ.
Avec un sens particulier dans une actualité qui est, on le sait, marquée par les conflits.
Bien, c'est-à-dire les conflits, c'est tourner le dos à Dieu. Et ça, c'est durcir ses positions de haine, de jalousie et d'envie. Alors, les conflits n'empêchent pas Dieu d'exister, mais nous lui tournons le dos.
Est-ce que cette foi en la résurrection, justement, est-ce qu'on peut la transmettre à d'autres ou seulement la témoigner?
Bien, c'est-à-dire que si vous tâchez de convaincre quelqu'un que le Christ est ressuscité, vous ne pouvez pas le faire de façon pédagogique ou méthodique ou comme s'il y avait une recette. Vous pouvez simplement le vivre vous-même. Et votre joie de vivre, votre profondeur spirituelle ou vos qualités humaines vont finir par poser des questions aux autres, ou vous êtes folle, ou bien vous vivez quelque chose de très particulier, et je pense que j'aimerais être heureux comme vous.
Père Pinault, un tout grand merci pour votre témoignage et votre partage. Je rappelle le titre de votre livre, « Dans les pas du Christ ». Encore un tout grand merci et une très joyeuse fête de Pâques.
Merci beaucoup. Joyeuse Pâques à vous aussi.